Donc le titre de ma communication est peut-être moins alléchant que celui d'autres intervenants aujourd'hui. Je vais parler de modélisation, on va parler de méthode, mais je vais aussi essayer de vous parler de science et de vous donner des exemples de ce qu'on peut faire avec les modèles de la biogéochimie dans l'océan. Donc on parle de biogéochimie, la science, ou la biogéochimie, c'est la science du cycle des éléments ici dans l'océan, donc on s'intéressera évidemment au cycle du carbone, mais dans la modélisation de la biogéochimie marine, il y a d'autres cycles. Le cycle des nutriments, le cycle de l'oxygène. Je me concentrerai, vous le verrez, principalement sur le cycle du carbone. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'il faut modéliser la biogéochimie marine et le cycle du carbone dans l'océan. Vous en avez déjà eu des exemples, en fait, ce matin, avec en particulier les exposés de Pierre Régnier. Il a beaucoup parlé de modèles, mais aussi celui d'Edouard et celui de Laurie Mainvielle. Puis ensuite, j'essaierai de vous montrer comment est-ce qu'on modélise le cycle du carbone dans l'océan. Alors, je m'intéresserai à une classe de modèles en particulier et à la représentation de la biogéochimie marine dans les modèles système Terre, dans les modèles climatiques qui sont les mêmes que ceux qu'on utilise pour faire des projections climatiques. Et puis, je terminerai avec quelques exemples récents, plus ou moins récents d'ailleurs, sur différents types de travaux qu'on peut faire avec ces modèles biogéochimiques. Donc, pourquoi? Quelles sont les grandes questions auxquelles on s'intéresse quand on fait de la modélisation en biogéochimie marine, comment, quel est le principe de ces modèles et comment est-ce qu'ils ont évolué au cours des dernières années, des dernières décennies. Et puis enfin, les exemples que je traiterai à la fin de mon exposé sur la représentation des processus biologiques et la pompe biologique de carbone dont on a déjà parlé ce matin. Un petit mot rapide, parce que Pierre a déjà beaucoup parlé du rôle de l'océan côtier, mais vous montrer qu'on peut aussi utiliser ces modèles pour traiter du cycle du carbone dans l'océan côtier. Et puis enfin, je parlerai de la fertilisation par le fer, qui est une des techniques évoquées quand on parle de géo-ingénierie. Et je vous montrerai comment on peut utiliser des modèles de biogéochimie marine pour répondre à certaines questions qui se posent autour de ces techniques. Alors d'abord, pourquoi? Quelles sont les grandes questions? Et pourquoi est-ce qu'on doit modéliser la biogéochimie marine? Alors je commence par cette figure, qui est une figure que sans doute beaucoup d'entre vous ont vue. Alors peut-être pas cette version de l'augmentation de la température ici au cours des prochaines décennies. Attendez, je vais prendre mon pointeur. Mais là, vous avez une figure d'un article très récent qui vous montre les nouvelles projections réalisées par les modèles climatiques pour le prochain rapport du GIEC, celui qui va sortir à l'automne prochain, avec une série de nouveaux scénarios qu'on appelle les SSP ici. Et donc, vous avez ces projections de température, d'anomalies de température au cours du XXIe siècle. Pardon, on ne voit pas les années, mais ici, c'est 1850, 2015, et puis les scénarios entre 2015 et 2100. Et en fonction de ces différents scénarios, et surtout de la quantité de CO2 et des autres gaz à effet de serre que vous émettez dans l'atmosphère, le climat de la Terre se réchauffe plus ou moins. Alors, à partir de cette figure, et puis des scénarios précédents, on peut fabriquer cette autre figure, qui est sans doute une des figures les plus importantes parues dans le dernier rapport du GIEC en 2013, où, à partir de modèles climatiques, on peut montrer une relation quasi linéaire entre les émissions cumulées de carbone anthropique. Donc, on fait la somme des émissions cumulées de carbone depuis le début de l'ère industrielle. Donc, on est en pétagramme de carbone ou gigatonne de carbone, la même unité que celle qui a été utilisée ce matin. Et vous voyez qu'on a une relation quasi linéaire, quel que soit le scénario ici, entre ces émissions cumulées de carbone et le réchauffement atteint au cours des prochaines décennies. Donc là, pour un réchauffement de 2 degrés, par exemple, on sait à peu près quelle est la quantité totale de carbone que l'on peut émettre dans l'atmosphère si on veut limiter le réchauffement. Et donc, voilà ce que dit le dernier rapport du GIEC, ou même le rapport un peu plus récent sur la limitation à 1,5 degré. Si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, il faut qu'on émette au total moins de 790 pétagrammes de carbone. On a déjà émis à peu près les deux tiers de cette quantité, donc il nous reste de l'ordre de 200, un peu plus, pétagrammes de carbone à émettre. Alors, derrière cette figure, derrière ces résultats, en fait, se cache la modélisation du climat, évidemment, mais aussi la modélisation du cycle du carbone et la modélisation du cycle du carbone océanique. Pourquoi? Eh bien parce que pour calculer le réchauffement global en partant des émissions de carbone, vous avez besoin de tenir compte du rôle des puits, du puits continental d'une part, du puits océanique de l'autre, pour calculer l'évolution du CO2 dans l'atmosphère. Et seulement à partir de l'évolution du CO2 atmosphérique et des autres gaz à effet de serre, vous êtes capable de calculer le réchauffement global. Donc derrière ces résultats importants se cachent des résultats de modélisation du cycle du carbone et en particulier du cycle du carbone océanique. Et donc, vous avez ici, avec les nouveaux modèles système Terre utilisés au niveau international, l'évolution du puits de carbone dans l'océan au cours des prochaines décennies. vous le voyez, entre 2015 et 2100, et en fonction des différents scénarios que je vous ai montrés tout à l'heure. Et donc, si on impose des émissions, si on calcule les puits de carbone ici dans l'océan et dans la biosphère continentale, on peut calculer le CO2 atmosphérique et on peut calculer le réchauffement global avec un modèle de climat. Et donc ça, c'est un résultat qui a été construit à partir d'une dizaine de modèles du cycle du carbone océanique utilisés et développés au niveau international. Et donc on voit les courbes chaque fois, c'est la moyenne de ces différents modèles développés au niveau international. Et l'enveloppe autour des courbes, c'est une incertitude qui vous est donnée par la comparaison entre les différents modèles. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'au premier ordre, le puits de carbone ici est important parce qu'on est dans un scénario où le CO2 augmente de façon, où les émissions de carbone augmentent de façon importante. Et comme le premier driver, le premier facteur qui explique le puits de carbone, c'est l'augmentation du CO2, on a un puits important qui finit par saturer. Et puis évidemment, si on limite les émissions et si les émissions de CO2 vont à la baisse au cours des prochaines décennies, en fait, le puits de carbone aussi va diminuer. Parce qu'encore une fois, comme il est piloté par l'augmentation du CO2, si le CO2 se stabilise, le puits va diminuer jusqu'à zéro, vous voyez, d'ici la fin du XXIe siècle. Donc l'océan nous aide aujourd'hui, parce qu'on est dans une phase où le CO2 croît. Demain, si le CO2 se stabilise, l'océan nous aidera de moins en moins. Donc ça, c'est une des premières questions pour laquelle on a absolument besoin de représenter l'évolution future du puits de carbone et donc de s'appuyer sur la modélisation de la biogéochimie marine et du cycle du carbone océanique en particulier. Autre grande question à laquelle on est confronté, quel est l'impact des modifications anthropiques, alors du changement climatique et de l'acidification dont on a déjà parlé, sur les écosystèmes marins et sur les services écosystémiques qui nous sont rendus par ces écosystèmes. Et donc là aussi, je vous montre deux figures de récents rapports du GIEC. Ici, une figure tirée du rapport spécial sur les océans qui est sorti en 2019 et qui vous montre l'évolution du potentiel de pêche en 2100 par rapport à 1986-2005, ici dans un cas où le scénario consiste à une augmentation importante des émissions de CO2. Et ce que vous voyez dans ces résultats de modélisation ici, c'est qu'avec l'augmentation du CO2, le changement climatique, on s'attend à une baisse assez drastique du potentiel de pêche en 2100, en particulier dans les zones tropicales. Et on a plutôt une augmentation du potentiel de pêche aux hautes latitudes de l'hémisphère nord. Autre résultat, cette fois-ci tiré du rapport du GIEC en 2014, vous avez ici la distribution d'un certain nombre d'organismes, les coraux d'eau chaude, pardon, en vert, dans la zone tropicale, en surface, les coraux d'eau froide, plutôt en subsurface, de temps en temps à plusieurs centaines de mètres de profondeur, et puis ici des pêcheries de crustacés et de mollusques. Pourquoi ces organismes-là? Parce que ce sont des organismes calcifiants et qui sont particulièrement impactés par l'acidification des océans. Et vous avez ici la carte avec les couleurs bleutées qui vous montre l'acidification future de l'océan. Et donc si on veut comprendre comment ces organismes peuvent réagir ou vont réagir à l'acidification, vous avez besoin de projeter l'évolution de l'acidification au cours des prochaines décennies. Et donc c'est aussi en utilisant des modèles de la biogéochimie marine, des modèles du cycle du carbone océanique, qu'on est capable de réaliser, de simuler l'évolution, ici du pH de surface, dans le cadre d'un scénario où les émissions augmentent de façon importante, le scénario RCP 8.5, dont je ne sais plus quel intervenant a parlé ce matin, et puis ça c'est le scénario où les émissions se stabilisent et puis diminuent rapidement, pour limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés. Et ce que nous disent les modèles du cycle du carbone océanique ici, c'est que l'acidification, évidemment, diverge dans ces deux scénarios, avec une acidification importante dans le scénario où les émissions de CO2 augmentent de façon importante, et puis une acidification limitée quand le CO2 se stabilise, dans le cas où on parvient à limiter nos émissions et à faire baisser nos émissions de CO2 anthropique. Et donc là aussi, pour cette question, qui est une question d'impact cette fois-ci, alors sur les écosystèmes, mais aussi sur les activités humaines liées à ces écosystèmes, vous voyez que la modélisation de la biogéochimie marine est indispensable. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes questions qui finalement structurent les développements de notre communauté autour de ces modèles-là. Et c'est autour de ces deux grandes questions que se sont développés les outils que je vais vous présenter maintenant. Vous verrez par la suite qu'il y a beaucoup d'autres questions qu'on peut aborder avec ces outils, mais je vous remets ici les deux questions principales. L'intensité du réchauffement dépend de la quantité de CO2 émise, mais aussi des puits de carbone, et donc on a besoin de simuler l'évolution de ces puits. Et pour comprendre l'impact sur les écosystèmes, on a besoin de simuler l'évolution potentielle du pH de l'océan, mais aussi de la quantité d'oxygène, de la distribution des nutriments, de la production primaire, qui va affecter ensuite la chaîne trophique jusqu'aux espèces qui sont pêchées. Mais l'utilisation de modèles peut avoir beaucoup d'autres objectifs. Et certains de ces objectifs ont été présentés ce matin. Alors, on utilise, et ça c'est finalement en lien avec mes premières questions ici, on utilise ces modèles pour faire des projections, des prévisions, à quoi ressemblera l'océan à un moment donné dans le futur. Donc c'est peut-être la question d'entrée ici. Mais les modèles nous offrent aussi un cadre dynamique quantitatif. Vous avez des observations, mais vous observez partiellement le système Terre, partiellement dans l'espace, partiellement dans le temps. Et ces modèles vous permettent d'offrir un cadre pour interpréter ces données, pour quantifier un certain nombre de processus. Et donc l'utilisation combinée des modèles et des données peut permettre d'aller plus loin dans l'analyse des processus et de leur importance dans le système Terre. Un autre rôle important de la modélisation. Et puis enfin, vous pouvez même utiliser les modèles en amont de l'observation. À quel endroit faut-il observer ? À quelle fréquence faut-il observer si on veut être capable de détecter, d'attribuer un changement qu'on pourrait observer ? Donc, on utilise de plus en plus les modèles pour fabriquer des stratégies d'observation. Et puis enfin, quatrième possibilité d'utilisation de ces modèles, des tests d'hypothèses. Alors finalement, prévision, projection, c'est aussi un test d'hypothèse. Mon CO2 ou mes émissions évoluent de telle façon ou de telle autre façon, à quoi ressemblera l'océan du futur. Ici, vous pouvez tester beaucoup d'autres choses, et en particulier tester, par exemple, les méthodes de géo-ingénierie dont je parlerai tout à la fin, la fertilisation par le fer. On peut aussi tester le modèle dans le passé, pour essayer d'expliquer les événements de Heinrich. C'est ce que nous a montré Laurie Mainviel ce matin. Donc beaucoup d'utilisations supplémentaires, en plus de simplement l'utilisation de modèles pour projeter. Alors, je vais maintenant essayer de vous montrer comment on modélise la biogéochimie dans l'océan, comment on modélise le cycle du carbone océanique. Mais peut-être avant de parler spécifiquement du cycle du carbone dans l'océan, je vais vous dire quelques mots sur la modélisation du climat. On a parlé de modèle système Terre ce matin. On parle beaucoup de modèles de climat. Et peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un modèle de climat, je vais essayer de vous donner les principes de base de la modélisation du climat de façon très, très simplifiée ici. En fait, les modèles de climat, ils sont absolument nécessaires. On est, quand on étudie le climat, dans un domaine de la physique compliqué parce qu'on ne peut pas expérimenter sur un analogue du système climatique. C'est un système de trop grande échelle et trop complexe pour reproduire en laboratoire un analogue expérimental. Et donc, ce qu'on crée avec les modèles climatiques, c'est un analogue numérique du système climatique. Et donc, quand vous fabriquez un système climatique, vous avez en toile de fond un modèle conceptuel du système que vous voulez simuler, donc du système climatique. Donc ça, c'est un exemple de modèle conceptuel du climat où vous avez les différentes composantes du système climatique qui vont interagir sur les échelles de temps d'intérêt. Donc l'atmosphère, évidemment, la physique de l'atmosphère, la chimie de l'atmosphère, les interactions entre l'atmosphère et l'océan, les échanges de chaleur, les échanges d'eau, les échanges de matière, mais aussi les surfaces continentales. Conceptuellement, vous avez ici le lien entre les continents et les océans, via les apports par les rivières, dont parlait Pierre Régnier ce matin, l'importance de la cryosphère ici. Et donc vous avez sur ce schéma ici une représentation conceptuelle du système que vous voulez mettre dans votre ordinateur, que vous voulez représenter dans votre ordinateur. Alors je vous montre peut-être une partie de cette courte vidéo qui a été réalisée par des collègues, en particulier du LSCE ici. Alors si ça démarre, voilà. Elle vous montre avec les mains ce que c'est qu'un modèle de climat. En deux mots, le principe d'un modèle de climat, c'est que ce n'est pas un modèle statistique, c'est un modèle mécaniste qui utilise notre connaissance des processus physiques, chimiques et biologiques et qui les met en équation. Alors, il les met en équation, ce modèle de climat, et ensuite, pour pouvoir calculer l'évolution du système climatique, il va discrétiser l'atmosphère et l'océan, donc il va séparer l'atmosphère en plein de petites boîtes que vous voyez ici. Et la même chose est faite sur les... Pardon, c'est pas ça que je voulais faire... pas la main pour l'accélérer. Donc le principe de base, c'est que vous séparez l'atmosphère en plein de petites boîtes, à l'échelle horizontale, à l'échelle verticale. Vous faites la même chose dans l'océan, à l'échelle horizontale, à l'échelle verticale. Et les équations qui représentent l'évolution des quantités d'intérêt, la quantité de chaleur, la quantité d'eau dans l'atmosphère, la quantité de sel dans l'océan, ces équations, vous allez les utiliser dans chacune des boîtes pour calculer l'évolution de vos variables. Et vous faites ça très souvent, dans beaucoup de boîtes, et donc ça demande évidemment des ordinateurs très costauds pour être capable de calculer l'évolution de ces quantités. Et donc là, par exemple, pour l'atmosphère, on représente les transferts de masse, de chaleur, d'eau entre les différentes boîtes, Il y a un certain nombre de processus qui ne peuvent pas être représentés explicitement, les processus de toute petite échelle. Et donc les nuages que vous avez vus tout à l'heure, dans l'atmosphère, ils posent problème, on ne peut pas représenter explicitement la physique des nuages, donc on utilise des paramétrisations empiriques pour expliquer le rôle des nuages sur le cycle de l'eau, par exemple. Sur les surfaces continentales, on va représenter dans chacune des mailles du modèle une fraction de maille couverte par des forêts, par des cultures, et on va représenter les échanges d'énergie et d'eau entre la maille atmosphérique et la surface continentale. Et puis dans l'océan, on fait la même chose. On sépare en différentes mailles, on représente les courants océaniques entre les différentes boîtes. La turbulence dont parlait Sabrina ce matin n'est pas représentée explicitement parce qu'on n'a pas la résolution pour être capable de représenter les tourbillons, et donc on est obligé de paramétrer le rôle de la turbulence sur le transport de matière, le transport d'eau. Là, vous avez la pompe biologique dont on a déjà parlé ce matin et dont je vais vous reparler. Et puis ensuite, beaucoup d'équations et des gros ordinateurs. Et donc le principe de base, c'est une représentation mathématique du système, des processus, basée sur notre connaissance de la physique. Puis cette discrétisation, on sépare l'atmosphère et l'océan en plein de petites boîtes, on donne un état initial au modèle, voilà à quoi pourraient ressembler en 1850 les différentes variables, et puis ensuite on simule l'évolution en fonction de forçage, donc de conditions extérieures, par exemple les émissions de CO2 ou l'insolation solaire. Et puis ensuite on simule par exemple ici des flux de CO2 à l'interface entre l'atmosphère et l'océan. Donc quand on vous montre ce petit film, ça a l'air tout joli, en fait c'est moins sympa. Dans les faits, ça ressemble à des millions de lignes de code, et on utilise ces gros calculateurs ici pour être capable de faire ces projections climatiques sur le long terme. Donc voilà à quoi ça ressemble la modélisation du climat. Quelques mots sur l'évolution des modèles climatiques au cours des dernières décennies. Ça, c'est des figures aussi tirées d'un rapport du GIEC qui vous montre qu'entre les années 70 et puis ici, c'est dans les années 2000, on a petit à petit intégré dans ces modèles de climat de plus en plus de complexité, en représentant vraiment les différentes composantes du système climatique. Les premiers modèles de climat, en fait, c'était des modèles d'atmosphère, avec un cycle de l'eau représenté de façon très simpliste, et avec des échanges avec l'océan aussi qui étaient représentés de façon très simpliste. Et puis vous voyez qu'au cours des décennies, ici, dans les années 90, la représentation explicite de l'océan a été intégrée, la représentation explicite du cycle du carbone a été intégrée, ici, au début des années 2000, et puis maintenant, on a de la chimie dans l'atmosphère, les aérosols, une végétation interactive, etc., etc. Et moi, ce dont je vais vous parler ici, c'est le cycle du carbone dans l'océan. Donc on va regarder vraiment une fraction de ce que vous avez dans ces grands modèles de climat. Alors, en parallèle de l'évolution de la complexité, les modèles, grâce à l'augmentation des moyens de calcul, ont aussi vu augmenter leur résolution spatiale. Donc j'ai décrit la discrétisation, ça veut dire séparer l'atmosphère et l'océan en plein de petites boîtes, où on fait l'hypothèse que les propriétés sont homogènes. Évidemment, plus vos boîtes sont grandes, moins vous représentez précisément les processus. Donc voilà à quoi ressemblait une grille typique d'un modèle de climat dans les années 90, avec des boîtes qui faisaient 500 km de côté, et on suppose que dans un cube de 500 km de côté, peut-être de quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres d'épaisseur dans l'atmosphère, tout est homogène. Donc évidemment, vous représentez très mal l'impact, vous voyez ici, des Alpes, par exemple, sur la circulation de l'atmosphère. Avec l'augmentation de la puissance des calculateurs, on a maintenant des résolutions qui ressemblent plutôt à ça, dans les modèles de climat utilisés au niveau international, donc une centaine de kilomètres, voire moins, et donc vous commencez à mieux représenter les interactions entre, par exemple, la topographie et la circulation atmosphérique. Ça serait la même chose dans l'océan. Pour bien représenter la plongée des eaux profondes, dont on a beaucoup parlé ce matin, si vous avez une résolution importante, vous allez mieux représenter la façon dont les masses d'eau vont se former sur le plateau continental et puis potentiellement couler le long des talus. Alors, la biogéochimie marine, ben voilà, je vous ai montré, c'est un extrait de la petite vidéo d'avant. Ça, c'est les particules qui chutent dans la colonne d'eau. Comment est-ce qu'on représente ce cycle du carbone? Comment est-ce qu'on représente ces particules? Compliqué parce que pour la biogéochimie marine, on n'a pas les équations de la dynamique des fluides qu'on a pour représenter la circulation dans l'atmosphère et dans l'océan. On a, alors malheureusement ou heureusement, à représenter des processus biologiques pour lesquels vous êtes obligé de faire des hypothèses, d'utiliser des relations empiriques et d'utiliser ce qu'on appelle des paramétrisations. Et effectivement, pour le cycle du carbone, on a besoin de représenter ces trois pompes dont a parlé Edouard ce matin, la pompe physique ou de solubilité. Alors pour cette pompe-là, finalement, on a besoin que de représenter la circulation océanique et puis la chimie du CO2. Le fait que le CO2, une fois qu'il se dissout dans l'eau de mer, il se combine avec des molécules d'eau et puis il peut donner des ions bicarbonate ou carbonate. Par contre, pour représenter les deux autres pompes de carbone, la pompe des tissus mous, ou organic carbon pump ici, ou alors la contre-pompe des carbonates, vous avez besoin de représenter la production biologique, le rôle du phytoplancton, le rôle du zooplancton, la façon dont ces organismes vont croître, vont mourir, la façon dont les particules formées vont tomber vers le fond, etc., etc. Et donc il faut inventer des paramétrisations qui permettent de reproduire ces processus-là aussi. Et donc cette pompe biologique, elle est compliquée. Là, vous avez une représentation sans doute encore simple de la pompe biologique, mais vous avez une petite idée de la quantité de processus qui vont jouer sur la quantité de carbone qui est exportée de la couche de surface vers l'océan profond en raison de la vie dans l'océan. Cette pompe biologique, elle est basée sur à la fois des processus physiques, par exemple la chute des particules vers le fond de l'océan sous leur propre poids, des processus physiques toujours, ces particules elles peuvent s'agréger, elles peuvent se désagréger en fonction par exemple de la turbulence de l'océan, elles peuvent être transportées par les courants marins si elles chutent très lentement, des processus biologiques, évidemment la photosynthèse qui permet au phytoplancton d'utiliser le CO2 dissous dans l'eau de mer pour fabriquer de la matière organique, la croissance de ce phytoplancton, la prédation du phytoplancton par du zooplancton, la fabrication, par exemple, de pelotes fécales par le zooplancton, qui vont aussi contribuer à la production de particules, etc. etc. Donc là, c'est une représentation de cette pompe biologique. Et puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour calculer la croissance du phytoplancton, de ne connaître que la quantité de carbone, ça ne me suffit pas. J'ai besoin de savoir si le phytoplancton il est limité par l'azote, par le phosphore, par la silice, par le fer. Et donc, vous voyez que mon modèle il va tout de suite se complexifier. J'ai aussi besoin de représenter d'autres cycles au-delà du cycle du carbone, de représenter le cycle de l'azote, du phosphore, de la silice, du fer potentiellement. Et donc on se retrouve avec beaucoup d'équations et un système relativement complexe. Et je vais vous montrer au cours des dernières décennies comment les modélisateurs de la biogéochimie marine ont abordé ce problème-là. Alors voilà, pour représenter le cycle du carbone dans l'océan ou la biogéochimie marine, vous avez besoin de représenter la physique de l'océan et évidemment les courants qui vont distribuer toutes les espèces dissoutes dans l'ensemble des bassins de l'océan mondial. Vous avez besoin de représenter la chimie dont on a parlé pour l'acidification, avec la chimie des carbonates, mais il y a beaucoup d'autres réactions chimiques importantes, autour par exemple des cycles des nutriments, et puis la biologie, avec par exemple la croissance du phytoplancton. Donc potentiellement beaucoup d'équations et un système très complexe. Et à la fin, en fait, ce que vous obtenez, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ces équations, mais c'est des équations qui sont finalement relativement simples. Dans chacune des boîtes de votre modèle, vous calculez l'évolution temporelle de votre traceur, comment est-ce qu'il évolue par rapport à sa concentration il y a 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Et pour savoir comment il évolue, vous tenez compte de ces différents processus. Ça, c'est un terme qui va représenter l'advection par les courants. Le fait que la boîte située dans un endroit donné de l'océan, elle va recevoir de l'eau qui vient de la boîte d'à côté, avec une concentration du carbone dans la boîte d'à côté. Alors, advection par les courants, ou alors diffusion, mélange, verticalement ou horizontalement. Et puis là, dans le dernier terme, vous avez toutes les sources et puits biogéochimiques, tout ce dont j'ai parlé auparavant. La production de phytoplancton, elle va faire diminuer la concentration de carbone dissous dans l'eau de mer. Et quand vous reminéralisez la matière organique, au contraire, vous allez faire augmenter la quantité de carbone inorganique dissous que vous avez dans l'eau de mer. Et à la fin, les équations que vous utilisez, elles ressemblent à cette équation-là. Et c'est simplement que vous devez calculer très régulièrement l'évolution des concentrations dans toutes les boîtes de votre modèle. Alors, pour parler de la modélisation de la biogéochimie marine, je vais commencer par vous parler des tout premiers modèles développés à la fin des années 80, en fait, qui ont été intégrés dans les modèles de climat. Donc, l'objectif à l'époque, c'était vraiment un objectif carbone, puits de carbone, comment est-ce qu'on peut calculer l'évolution du puits de carbone. Et donc, un des premiers scientifiques à avoir intégré un modèle du cycle du carbone océanique dans un modèle de climat, c'est Ernst Mayrheimer, un scientifique allemand qui est mort maintenant il y a quelques années, qui travaillait au Max Planck Institute à Hambourg. Et donc, il a développé un modèle géochimique du carbone ou biogéochimique du carbone très simple, avec peu de traceurs, donc peu d'éléments pour lesquels il faut calculer à chaque pas de temps l'évolution dans le temps. Et finalement, avec peut-être 5 ou 6 traceurs, 2 traceurs importants, les phosphates comme seul élément nutritif qui allait limiter la croissance du phytoplancton, et le DIC, donc le carbone inorganique dissous, qui vous permet ensuite de calculer la quantité de CO2 et donc les échanges de CO2 à l'interface air-mer. Et il avait réduit l'ensemble de la biologie du système à une seule équation pour calculer un seul terme, la quantité de particules de matière organique qui est exportée vers l'océan profond. Et finalement, quand on veut calculer le puits de carbone, c'est sans doute la quantité la plus importante. Cette production de particules qui vont chuter dans la colonne d'eau et qui vont finalement soustraire du carbone qui serait au contact de l'atmosphère en l'emmenant dans l'océan profond, là où il est loin de l'atmosphère. Et donc, il avait dans son modèle une seule équation pour toute la biologie. Il calculait la production exportée de particules organiques en fonction de la température, de la lumière. Oui, il y a un lien avec la photosynthèse. Il faut de la lumière pour que le phytoplancton produise de la matière organique et potentiellement qu'elle vienne à être exportée. Et une fonction de la quantité de phosphate. Quand il n'y a pas de phosphate, il faisait l'hypothèse qu'il n'y avait pas de production de phytoplancton et donc on ne génère pas de particules. Et donc ce type de modèle a été intégré dans des modèles de circulation générale de l'océan et finalement pendant très longtemps a été utilisé. Et ça donne des résultats au premier ordre qui sont tout à fait valables et très comparables à ceux qu'on utilise aujourd'hui avec des modèles beaucoup plus complexes. Et donc là finalement, par rapport au coût d'un modèle de circulation de l'océan, vous ajoutez quelques traceurs, évidemment ça coûte plus cher, mais c'est pas trop cher. Par contre, vous ratez potentiellement un certain nombre de processus importants. Vous ne représentez pas le phytoplancton, pas la chlorophylle, pas le zooplancton, etc. Et donc, les années qui ont suivi, en particulier dans les années 2000, on a, dans les modèles de climat, des modèles un peu plus complexes, avec plus de traceurs, où on représente le phytoplancton explicitement, alors avec une espèce générique de phytoplancton, qui ressemble en moyenne au phytoplancton dans l'océan, avec du zooplancton, de la matière organique dissoute, Pierre en a parlé ce matin, des particules toujours qui sont exportées vers l'océan profond. Ça vous demande plus de paramètres, comment le phytoplancton pousse en fonction des nutriments, comment le zooplancton va prédater sur le phytoplancton, etc. etc. Mais ces modèles dits NPZD, pour nutriments, phytoplancton, zooplancton, détritus en fait, particules, détritus, ces modèles NPZD sont toujours utilisés. Donc dans les modèles de climat utilisés au niveau international, le cycle du carbone dans l'océan est souvent représenté en s'appuyant sur un modèle de type NPZD. Alors un exemple d'équation aussi pour ces modèles NPZD, alors là on peut calculer la croissance du phytoplancton, donc la production primaire, en utilisant un taux de croissance du phytoplancton, un terme qui limite ce taux de croissance par la température, un terme qui limite le taux de croissance par l'abondance en nutriments ou par la lumière, et puis fois la biomasse de phytoplancton. Donc là, ça vous demande d'ajouter à votre modèle de nouvelles équations avec des nouveaux paramètres, et vous pouvez baser ces paramètres sur des expériences de laboratoire, et donc il faut commencer à travailler avec les biologistes qui font croître ou qui cultivent du phytoplancton en laboratoire. Et donc dans ce cas-là, le taux de croissance, il est fonction des conditions environnementales et biogéochimiques, et malheureusement de l'espèce. Là, on a un seul phytoplancton, et donc on est obligé de faire des moyennes et de représenter de façon générique ce phytoplancton. Troisième génération de modèles, des modèles dits Dynamical Green Ocean, ils s'appellent aussi des modèles en Plankton Functional Types, donc en type fonctionnel de plancton. Et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on a commencé, dans ces modèles biogéochimie marine ici, à séparer le phytoplancton en grands groupes phytoplanctoniques. Alors le phytoplancton, vous avez des multitudes de classes de taille, depuis des organismes qui font un micron à des organismes qui font des centaines de microns, avec des caractéristiques fonctionnelles très différentes, des organismes qui ont des coquilles calcaires, des organismes qui ont des coquilles en silice, comme les diatomées. Et donc, il semble important de séparer le rôle de ces différents organismes. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis quelques années, hein, avec des modèles où on a maintenant 2, 3, 4, 5 types de phytoplancton différents, plusieurs types de zooplancton en fonction de la taille. Et donc, on commence à représenter une chaîne alimentaire, finalement. Le microzoo qui brouterait principalement sur certains types de phytoplancton, puis le zooplancton de plus grande taille qui viendrait brouter du microzooplancton et certaines espèces de phytoplancton. Et vous voyez aussi qu'on a augmenté le nombre d'éléments nutritifs qui pouvaient limiter la croissance du phytoplancton. Donc au-delà des nitrates et des phosphates, aussi le fer, les silicates, et puis j'ai des collègues qui développent des modèles avec la limitation par le zinc, par exemple, par le cobalt. Donc ces modèles se complexifient. Vous imaginez que le nombre de traceurs qu'il faut transporter dans l'océan est très important. Ici, vous en voyez une dizaine, il y en a sans doute plutôt une vingtaine dans les faits. Et donc, vous avez un modèle de circulation générale de l'océan. En ajoutant la biogéochimie, vous allez multiplier potentiellement par 5 ou par 10 le coût du modèle parce que vous voulez représenter la biologie de façon un peu plus précise que ce que vous avez dans des modèles très simplistes ici, comme le modèle géochimique. Je vais vous parler un petit peu des exemples que je vais vous donner, ils sont basés sur l'utilisation de ce modèle-là, le modèle PISCES, développé par un collègue qui travaille à l'océan ici à Paris, Olivier Aumont. Et donc, c'est un modèle en type planctonique fonctionnel, simple, avec seulement deux grands groupes. Du phytoplancton de petite taille et puis des diatomées, c'est du phytoplancton de plus grande taille, en particulier qui utilisent la silice pour leur coquille ou test, avec deux types de zooplancton et puis les cinq éléments nutritifs dont j'ai parlé tout à l'heure. différents types de particules aussi, des petites particules qui tombent lentement dans la colonne d'eau et puis des particules de plus grande taille qui vont tomber plus vite dans la colonne d'eau. Voilà, et donc ce modèle-là, vous l'intégrez dans un modèle de circulation océanique, vous le forcez, par exemple, avec l'évolution du CO2 dans l'atmosphère, avec des vents, des températures de surface, vous lui donnez aux embouchures des rivières des apports de DOC, de matière organique dissoute, de matière organique particulière, de nutriments, de DIC, c'est un peu ce que Pierre racontait. Donc on utilise les données qu'on a à disposition pour forcer aux frontières ce modèle. Alors vous pouvez aussi utiliser des produits qui vous disent quelle est la quantité de poussière déposée à l'océan, la quantité de fer qui viendrait de l'interaction avec le sédiment, et puis voilà à quoi ressemble une sortie du modèle. Vous avez ici des flux de CO2 simulés pour l'année 95, vous avez les mois qui défilent ici, et donc vous voyez en rouge des zones où le CO2 sort de l'océan, et en bleu des zones où le CO2 rentre dans l'océan. Et donc on retrouve certaines des caractéristiques que Claire Le Monaco a présentées ce matin, le dégazage dans le Pacifique équatorial lié à cet upwelling qui ramène des eaux riches en carbone naturel, des zones puits ici dans l'Atlantique Nord, dans le Pacifique Nord, et puis une forte saisonnalité qui dépend de la température, qui dépend de la production du phytoplancton, du mélange des eaux de surface avec les eaux de subsurface, etc., etc. Donc voilà l'outil, vous pouvez commencer à l'utiliser pour répondre aux questions dont j'ai parlé, et à beaucoup d'autres questions. Alors avant de répondre à des questions sur les projections futures, évidemment, il faut évaluer proprement les outils de modélisation. Donc faire des projections, ça nous prend du temps, mais en fait la majorité de notre temps, elle est passée à développer les paramétrisations, régler le modèle et l'évaluer en phase d'observation. Ça, c'est une partie très importante de notre boulot qu'on ne voit pas trop finalement, parce que ce qu'on voit, c'est la réponse à des questions qui intéressent en particulier la société. Donc je vous montre juste deux figures d'évaluation ici. Là, vous retrouvez les flux de surface. Alors là, c'est des delta P de CO2 basés sur la compilation de Takahashi, la même que celle que Claire Le Monaco vous a montrée ce matin. En rouge, des valeurs de P de CO2 ou de fugacité de CO2 plus fortes dans l'océan de surface que dans l'atmosphère. Et puis en bleu, c'est l'inverse. Et là, vous avez ce que simule le modèle. Alors dans un modèle climatique ici, vous retrouvez... Alors oui, il y a des biais, il y a des différences. Il y a des parties qui ne sont sans doute pas très bien représentées, mais on retrouve les grandes caractéristiques dans les zones d'upwelling, que ce soit ici le long du Yémen ou de l'Oman, un dégazage dans le Pacifique équatorial, dans l'Atlantique équatorial, et puis un puits moyen important dans l'Atlantique Nord ici, en zone arctique et dans le Pacifique Nord. Et puis dans l'océan Austral, on retrouve les deux zones, ici la zone puits très importante, et puis cette zone source liée à l'upwelling, plus près du continent antarctique. Donc on peut vérifier par rapport aux données de P de CO2 que le modèle représente ce qu'on attend, et on peut aussi faire des simulations sur toute la période historique, et on vérifie aussi que le modèle il stocke le carbone anthropique dans les bonnes masses d'eau et dans les bons endroits. Et donc là, vous avez, alors c'est pas écrit, mais c'est les données de Cathy Walla sur les inventaires de carbone anthropique en fonction des différentes zones en 2009, et donc beaucoup de carbone anthropique dans l'Atlantique Nord et dans cette bande dans l'océan Austral ici, un peu moins dans le Pacifique Nord. Et ça, c'est ce que simule le modèle à la même époque, après une simulation où vous avez fait augmenter le CO2 depuis 1750. Et donc on vérifie aussi avec le modèle qu'on est capable d'absorber le carbone dans l'Atlantique Nord ici, dans l'océan Austral, et de le stocker à peu près dans les bonnes masses d'eau. Donc il y a un travail important de développement, de réglage et d'évaluation. Voilà, je vais vous montrer maintenant quelques exemples, assez rapidement, trois exemples. Je vais revenir sur la pompe de carbone, vous avez vu que c'était complexe, je vais vous montrer qu'elle est encore plus complexe que ce que je vous avais dit, et qu'il faut qu'on fasse des efforts d'un point de vue modélisation pour intégrer cette complexité, ou en tout cas pour tester le rôle de cette complexité, quand ensuite on va vers des projections. Je parlerai très rapidement de l'océan côtier, Pierre en a déjà beaucoup parlé ce matin, et puis je terminerai avec un point sur la fertilisation par le fer et l'absorption de carbone. Alors je reviens sur la pompe biologique de carbone. Voilà notre vision classique, donc le paradigme de la pompe biologique de carbone, c'est de la production de matière organique en surface par le phytoplancton, un packaging en surface de particules. Alors la production de particules, alors ça peut être des cellules phytoplanctoniques mortes, ça peut être des organismes zooplanctoniques morts, mais ça peut être aussi des pelotes fécales qui ont été produites par le zooplancton, et ça peut être un mélange de tout ça. Après agrégation, on peut former des particules de plus ou moins grande taille, avec un mélange de tout ça. Donc ça, c'est la vision classique. Les particules sont formées dans l'océan de surface, là, dans la zone qu'on appelle zone euphotique, la zone éclairée. Et puis ensuite, ces particules, elles vont couler sous leur propre poids dans la colonne d'eau. des vitesses de chute typiques de quelques mètres à quelques centaines de mètres par jour en fonction de la taille et de la densité des particules. Et puis ensuite, ces particules, elles vont être fragmentées et puis utilisées par la vie marine, en particulier par les bactéries hétérotrophes qui utilisent cette matière organique pour survivre à des profondeurs où il n'y a pas de lumière. Et donc cette quantité de matière organique, elle est très rapidement utilisée par les organismes hétérotrophes ici, sous la couche de mélange, et puis petit à petit, quand on descend en profondeur, vous avez un flux de plus en plus faible. Et donc cette pompe biologique, elle est très importante. On estime les quantités de carbone exportées à 100 mètres autour de 10 pétagrammes de carbone par an. Donc si vous comparez aux 2,5 pétagrammes de carbone qui sont absorbés aujourd'hui chaque année par l'océan, vous avez ici un processus biologique qui transfère tous les ans 10 pétagrammes de la surface de l'océan vers l'océan profond. Donc évidemment, si cette pompe biologique elle change d'un facteur 2, si au lieu de 10 pétagrammes, c'est 5 pétagrammes, ça veut dire que vous laissez 5 pétagrammes de plus chaque année dans l'océan de surface, ça changerait complètement la façon dont l'océan répond au changement climatique. Donc on a besoin, si on veut savoir comment la pompe biologique va évoluer au cours des prochaines années, on a besoin de bien représenter les processus qui sous-tendent ce fonctionnement de la pompe biologique. Alors on a compris beaucoup de choses sur la pompe biologique au cours des dernières années, et on a compris qu'elle était beaucoup plus compliquée que ce que je viens de vous raconter. Il y a un article important de Phil Boyd et co-auteur en 2020 dans Nature qui décrit les différentes facettes de cette pompe biologique de carbone et qui montre une vision donc augmentée de la pompe biologique. Donc vous avez cette chute de particules. Il y a une partie de la pompe biologique, semble-t-il, qui est liée à ce qu'on appelle une eddy subduction pump. Donc c'est le rôle des tourbillons avec des courants verticaux importants qui pourraient faire subducter une partie de cette matière organique et des particules. Ce qui peut être lié aussi aux modifications de la profondeur, de la couche de mélange. Donc ça, c'est les interactions entre la matière organique et la physique de l'océan. Et enfin, je vais m'arrêter sur cette quatrième facette de la pompe biologique qui est beaucoup discutée ces dernières années, c'est ce qu'on appelle la pompe active. Donc tout ça, c'est des phénomènes passifs. Vous avez produit de la matière organique en surface, et puis ensuite, où elle va chuter, où elle va être transférée en profondeur par les vitesses verticales ou par l'approfondissement de la couche de mélange. Ici, c'est une pompe active parce qu'elle dépend directement du comportement de certains organismes, et en particulier des organismes migrants qui vont passer une partie de la journée en surface, se nourrir d'organismes de plus petite taille, et puis pendant la journée, ils vont descendre en profondeur, de temps en temps jusqu'à 200, 300, 400, 600 mètres de profondeur, et à la fin de la journée, ils remontent en surface. Donc l'hypothèse écologique pour expliquer ces comportements, c'est pour éviter la prédation dans la zone éclairée en surface. Donc ce sont des organismes qui peuvent être des tout petits poissons, du zooplancton de grande taille, qui tous les jours réalisent cette migration verticale entre la surface et quelques centaines de mètres de profondeur. Là, vous avez un exemple de mise en évidence de ces migrations verticales avec des données acoustiques, où vous voyez ici, pendant la nuit, des biomasses importantes en surface, et puis pendant la journée, on voit la descente des organismes jusqu'à 400 mètres, ils remontent en surface, ils redescendent, ils montent en surface. Pourquoi c'est important pour le carbone ? Et bien parce que ces organismes, ils consomment de la matière organique en surface, pendant la nuit, ils descendent à 400 mètres, ils passent la journée à 400 mètres et ils respirent à 400 mètres. Ils libèrent une partie de ce CO2 qui provient de la matière organique qu'ils ont prélevée en surface. Et donc une question importante, c'est celle du rôle de cette pompe active dans le transfert de carbone entre la surface et la subsurface. Et évidemment, si on s'intéresse ensuite à l'impact du changement climatique sur la pompe biologique, si c'est une pompe passive avec la chute de particules ou si c'est lié au comportement de certains organismes, la réponse pourrait être différente et vous pourriez avoir un impact sur le cycle du carbone différent. Donc voilà, donc je vous montre juste un résultat de modélisation ici. On a utilisé le modèle Pisces dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors on ne voit pas très bien, désolé pour la qualité de cette figure. Et on a couplé ce modèle Pisces avec un modèle de niveau trophique supérieur, donc un modèle qui représente les poissons de 2 mm jusqu'à 2 mètres. Et dans ce modèle qui représente les poissons ici, par classe de taille, on a une communauté de poissons qui est migrante et donc qui va passer la journée en profondeur et la nuit à la surface. Et donc on utilise ce modèle, où le modèle Pisces est couplé au modèle APCOSM ici, pour calculer le transfert de carbone lié au fonctionnement de cette communauté migrante. Donc ça, c'est des résultats d'un papier de mon collègue Olivier Aumont ici en 2018. Avec le modèle, on calcule explicitement la profondeur de migration des organismes. Alors, dans les gyres oligotrophes, ici, jusqu'à 500 ou 600 mètres de profondeur, ils vont très profond. Et dans certaines zones ici, ils vont beaucoup moins profond. Alors, ils vont moins profond parce que ou parce que la lumière diminue plus rapidement dans la colonne d'eau, c'est les zones plus riches, ou alors parce qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène en subsurface et il s'arrête jusqu'au toit de ce qu'on appelle l'OMZ, la zone de minimum d'oxygène. Et donc on a pu calculer ici le flux de carbone induit par la migration, donc c'est un pétagramme à 150 mètres, et donc à 150, c'est là, tout ce qui est rouge, rosé et orangé ici, c'est la part de la pompe de carbone liée à la migration. Donc, les estimations aujourd'hui, le consensus, c'est que ça pourrait représenter de l'ordre de 20% du flux de carbone à 150 mètres. Donc, ce n'est pas majoritaire, mais très significatif. Et donc, si on veut calculer l'évolution potentielle de ce flux au cours des prochaines décennies, on a besoin de tenir compte de modèles qui représentent explicitement cette pompe. Deuxième exemple, donc celui-là, je vais passer rapidement peut-être. Pierre vous a longuement présenté ce schéma-là. Le fait que dans les modèles système Terre, on n'a effectivement pas de lien entre le continent et l'océan, à part le lien qui passe par l'atmosphère. Et il a montré l'importance ici, hein, dans ce papier, des flux de carbone qui transitaient par ce continuum continent-océan, des flux de carbone naturels et des flux de carbone anthropiques, des échanges avec l'atmosphère dans les deux cas. Alors pourquoi c'est compliqué de représenter cette zone-là dans les modèles système Terre ? Et c'est ce que Pierre a déjà dit, c'est compliqué parce qu'on n'a souvent pas la résolution spatiale nécessaire. Imaginez que dans les modèles de climat, les boîtes moyennes dont je parlais, elles font 100 km de côté. Comment représenter... Donc 100 km de côté, ça veut dire dans une boîte de 100 km par 100 km, tout est homogène. Okay ? Maintenant, vous voulez représenter la zone côtière, où vous avez peut-être un plateau continental qui fait quelques dizaines de kilomètres de largeur. Puis ensuite, c'est le talus, puis ensuite, c'est très profond. Donc évidemment que les choses sont très hétérogènes, peut-être encore plus hétérogènes qu'ailleurs, dans ces boîtes qui sont près des côtes. Et c'est pareil sur la partie continentale. Très compliqué à représenter aussi en fonction de la résolution. Et puis, deuxième point, souvent on n'a pas les processus dans les modèles qui sont importants pour cette zone côtière, en particulier l'interaction avec le sédiment, le rôle des marées, et puis il y a beaucoup d'autres processus qu'on représente très mal. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était ces résultats qu'on a obtenus il y a quelques années avec un étudiant Timothée Bourgeois ici, où on a finalement bénéficié de l'augmentation de la résolution de ces modèles océaniques. On est passé de 200 km ici, et là on est à 1/2 degré, maintenant à 1/4 degré, donc 25 km. Donc on peut commencer à représenter explicitement ce qui se passe en zone côtière. Et donc dans ce papier, on avait calculé, avec ce modèle océanique à résolution augmentée, on avait calculé les puits et les flux de carbone en zone côtière, et donc on avait montré cette absorption par l'océan côtier de l'ordre de 0,1 pétagramme de carbone par an. Moins importante qu'il y a dans les données, donc il y a toujours débat sur ces 0,1 pétagramme de carbone par an, mais le résultat à l'époque, c'était de dire que l'océan côtier était finalement peut-être moins efficace que l'océan ouvert par mètre carré pour absorber du carbone anthropique, et ça finalement contredisait un certain nombre de théories qu'il y avait dans la littérature sur la pompe biologique ou la pompe de carbone liée à l'océan côtier. Voilà. Donc j'en dis pas plus, hein, j'ai enlevé une partie de mon matériel. Dernier point ici, fertilisation par le fer, absorption de carbone. On n'a pour l'instant pas du tout parlé des méthodes de géo-ingénierie, je suis sûr que vous en avez entendu parler par ailleurs. Il y en a toute une série, plus ou moins exotique. Ça, c'est un vieux schéma, mais qui résume déjà une partie de ces techniques de géo-ingénierie. De façon grossière, on sépare ces techniques de géo-ingénierie en deux grands groupes. Celles qui visent à modifier directement le bilan radiatif de la Terre. C'est le cas si vous envoyez des aérosols dans la stratosphère, ou si... vous changez la couverture nuageuse en ajoutant des particules, ou alors si vous mettez des réflecteurs géants en orbite, par exemple, là, vous touchez directement le bilan radiatif, donc vous n'attaquez pas aux causes du changement climatique. Et puis l'autre série de méthodes de géo-ingénierie vise à faire diminuer le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Et donc là, vous pouvez effectivement reforester, planter des arbres. Ça paraît assez intuitif, mais vous pouvez aussi utiliser l'océan, finalement, et augmenter artificiellement la capacité de l'océan à pomper du CO2. Alors, il y a plusieurs techniques, mais une technique qui a été beaucoup étudiée, en tout cas beaucoup discutée, c'est la technique de fertilisation par le fer des écosystèmes marins. Alors, pourquoi fertilisation par le fer ? En fait, on s'est rendu compte, fin des années 80, certains scientifiques, en particulier John Martin aux États-Unis, a démontré le rôle de l'abondance en fer dissous dans la limitation du phytoplancton. Il a fallu beaucoup de temps pour s'en rendre compte parce que c'est très compliqué de mesurer du fer dissous dans l'eau de mer. Il faut des conditions ultra propres pour mesurer du fer dissous. Donc c'est seulement fin des années 80. Et déjà à la fin des années 80, on se rend compte donc que le fer est limitant pour la production du phytoplancton dans une grande partie de l'océan mondial, dans tout l'océan austral, dans une partie du Pacifique équatorial et dans le Pacifique Nord. Et le phytoplancton a besoin de fer, mais il a besoin de très peu de fer. Donc il suffit de rajouter un peu de fer pour générer un bloom phytoplanctonique. Et donc déjà fin des années 80, John Martin dit « Donnez-moi un réservoir de fer et moi je peux vous donner un âge de glace. » Donc c'était une image pour expliquer qu'en ajoutant du fer, le phytoplancton allait se mettre à consommer le CO2, l'océan à pomper plus de CO2 et que ça allait pouvoir faire diminuer le CO2. Alors il y a eu depuis la fin des années 80 un certain nombre d'expériences in situ de petite échelle où les scientifiques sont partis sur des bateaux, ont ajouté à l'eau jusqu'à 6 tonnes de fer et ils ont suivi le bloom de phytoplancton qu'ils avaient généré de façon artificielle. Et donc ça, c'est une image satellite de couleur de l'océan prise 40 jours après la fertilisation de l'expérience Soirée. Donc on est au sud de l'Australie. C'est un océan plutôt oligotrophe. Les concentrations de chlorophylle sont faibles ici, de l'ordre de moins de 0,1 mg de chlorophylle par mètre cube. Et vous voyez ici cet anneau, c'est l'anneau fertilisé, où les concentrations de chlorophylle et donc la biomasse de phytoplancton ont fortement augmenté après l'ajout de fer. Et donc ce qu'ont mesuré les scientifiques aussi pendant la campagne, c'est que dans les endroits où vous ajoutez le fer, dans les endroits où le phytoplancton pousse, vous avez une baisse de l'appât de CO2, parce que le CO2 est consommé par le phytoplancton, et il y a une partie de ce CO2 qui doit venir de l'atmosphère. Et donc ça a lancé au début des années 2000 un peu une sorte de ruée vers des techniques de fertilisation. Il y a eu un certain nombre de start-up qui se sont développées avec l'idée de vendre des quotas carbone en proposant des brevets pour fertiliser l'océan. Les scientifiques étaient en grande partie plutôt sceptiques. Est-ce que c'est vraiment efficace? Quelles vont être les autres conséquences sur l'écosystème marin? Est-ce que le carbone prélevé par le phytoplancton, là, il va vraiment au fond de l'océan ou pas? Donc beaucoup de questions. Et évidemment, à partir de quelques expériences de fertilisation menées dans l'océan Austral, dans le Pacifique équatorial, dans le Pacifique Nord, c'est dur d'avoir une vision intégrée de ce que peut nous amener la fertilisation par le fer. Donc c'est un cas typique où les modèles de biogéochimie marine peuvent être utilisés et ont été utilisés. Donc je vous montre des résultats qu'on avait obtenus il y a déjà assez longtemps et qui, je crois, ont enrichi ce débat sur la fertilisation par le fer. Donc on avait utilisé le modèle PISCAS et on a fait des expériences très idéalisées. On fait l'hypothèse, pour regarder l'effet maximum, on fait l'hypothèse qu'on est capable de fertiliser l'ensemble de l'océan, ou en tout cas toutes les zones où il manque du fer, tout le temps, pendant 100 ans. Donc dès demain, on ajoute du fer à l'océan, partout, et tout le temps. Et donc, au bout de 100 ans, ce que vous voyez sur cette figure, c'est une augmentation de la production primaire, là, toutes les zones jaunes et oranges, suite à l'ajout de fer. Donc il se passe exactement ce que vous attendez, on ajoute du fer dans l'océan, en fait, on enlève la limitation par le fer, le phytoplancton se met à produire plus. Ce qu'on avait peut-être moins anticipé, c'est que dans les zones limitées par le fer, le phytoplancton se met à produire plus. Mais regardez, il y a beaucoup d'autres zones en bleu ici, où la production du phytoplancton a diminué. Pourtant, la seule chose qu'on a faite dans le modèle ici, c'est de rajouter du fer. Et en fait, ce qui se passe, c'est assez simple. Dans les zones où vous ajoutez du fer, le phytoplancton pousse. Il consomme le fer que vous avez ajouté, mais il consomme aussi plus de nitrate, plus de phosphate, plus de silicate. Et donc, les zones qui sont en aval, ici de l'océan Austral, ou le long de la langue équatoriale, se retrouve plus limité en nitrate, phosphate et silicate. Parce que dans les endroits où vous avez ajouté du fer, vous avez produit de la matière organique. La matière organique, elle a en partie coulé vers le fond et elle a emmené avec elle de l'azote, du phosphore et de la silice, du silicium. Et donc vous augmentez la limitation par les autres éléments nutritifs si on n'ajoute que du fer. Donc vous perdez une grande partie de l'intérêt de la méthode. Imaginez les pêcheurs péruviens et chiliens, si en ajoutant du fer dans l'océan Austral, ils se retrouvent avec moins de biomasse à pêcher parce qu'il y a des effets à très longue distance qui sont liés à ce que vous avez fait dans l'océan. Donc l'océan, c'est un milieu complexe en lien avec ses courants et en lien avec une biologie complexe. Et donc ça permet de mettre en évidence un certain nombre de réponses qui peuvent être contre-intuitives. Et on a testé aussi, en utilisant les mêmes simulations, l'effet sur le puits de carbone océanique et le CO2 atmosphérique. Et vous le voyez ici, ça c'est le puits de carbone océanique qui augmente jusqu'en 2000, on commence à fertiliser ici. Et donc, évidemment, le puits de carbone, il est plus important tout de suite. Vous fertilisez, vous absorbez plus de CO2. Et si vous continuez à fertiliser, vous maintenez l'absorption, plus d'absorption jusqu'à la fin du siècle ici. Mais l'effet sur le CO2 global, il est relativement limité, beaucoup plus limité que les premières estimations qui avaient été faites, juste avec des calculs trop simplistes. Et ce qu'on montrait dans cet article-là, en utilisant donc un modèle de biogéochimie marine, c'est que si vous fertilisez pendant 100 ans, à la fin, vous obtenez peut-être 30 ppm de moins de CO2 dans une expérience complètement irréaliste. Donc ça, c'est un effet max vers lequel on n'ira jamais. Et surtout, ce qu'on montrait aussi, c'est que si on arrête de fertiliser, assez rapidement, le CO2 revient à là où il était au départ. Donc c'est non permanent, c'est avec des conséquences collatérales potentiellement néfastes et assez peu efficaces. Voilà ce qu'on disait dans cet article-là. Voilà, ben j'arrive au bout, peut-être je vais m'arrêter là. Donc, la modélisation, pourquoi ? Donc, j'espère que, au-delà de la compréhension, au-delà de la prévision et de la projection, j'espère que je vous ai montré que la modélisation pouvait aussi servir à répondre à beaucoup d'autres questions, des questions fondamentales, hein, sur la quantification de certains processus, sur le test d'hypothèse. Comment, ben, je résume un peu ce que j'ai raconté, peut-être juste un mot sur avenir, quelles sont les nouvelles voies ? Alors, les nouvelles voies, c'est de plus en plus, on se rend compte de l'importance de la biodiversité, alors planctonique, phytoplanctonique, zooplanctonique. Et donc, on doit trouver d'autres manières de représenter cette biodiversité que d'ajouter des groupes fonctionnels. On est limité par le temps de calcul, je vous le disais tout à l'heure. Donc des travaux intéressants sur la façon de représenter la biodiversité. Beaucoup de questions aussi sur le rôle des petites échelles physiques, des tourbillons. Je suis sûr que Sabrina Spaich vous en parlera dans quelques instants. Et puis, les exemples que je vous ai montrés, évidemment, au premier ordre, évolution du puits de carbone, la rétroaction climat-carbone dont je n'ai pas parlé, comment est-ce que le climat qui change va changer l'efficacité de l'océan à capter du carbone. Et puis sur les impacts sur l'écosystème, j'ai un peu parlé de l'acidification, mais il y a effectivement d'autres questions autour de la désoxygénation, de l'évolution de la production primaire qu'il faut ou qu'on peut aborder avec ce type d'outils. Voilà, je vous remercie.